If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities from TV studios to radio suites and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.
Quel meilleur film vous proposez à vos enfants de parler du film de Youssouf, de parler de l'histoire de Moïse, de parler de comment Moïse a été fort vis-à-vis de Pharaon et des sagesses qu'il y a autour de ces histoires. C'est un Netflix à nous. Et il faut qu'on utilise ce Netflix qui est le Livre Saint et qui nous apporte énormément d'histoires. Et les histoires permettent de renforcer notre amour vis-à-vis d'Allah. Et quand on montre d'autres histoires à nos enfants et qu'ils ne rentrent pas dans nos valeurs, ben on ne fait que renforcer ces valeurs-là auprès de leur cœur. Et je pense que déjà, on doit replacer la définition de l'amour au sein de nos foyers pour justement ne pas perdre nos enfants, Inch'Allah. La responsabilité qu'on doit avoir et prendre conscience, c'est que nos enfants sont une amana. Et face à cette amana, quels moyens, quelles stratégies je mets en place pour l'accompagner face aux défis auxquels il fait face. Et là, le message que je donne aux parents, c'est...
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Ah, l'amour. Ce sentiment à la fois naturel et en même temps si pluriel. On peut se le dire. Comprendre ce qu'est l'amour invétéré, c'est compliqué. Pourtant, on aime depuis toujours. Le premier sentiment amoureux se loge au creux du ventre d'une maman, se déploie dans les liens d'attachement, et puis, un jour, ses grands-enfants deviennent des adolescents aux sentiments bien conséquents. C'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? Je suis obligée de me marier? Ces questions-là, vos enfants se les posent sûrement. Et plutôt que de laisser Google, Netflix ou TikTok leur donner des réponses douteuses aux conséquences parfois désastreuses, nous avions très envie, mon invité et moi, d'ouvrir la voie vers des réponses éclairées, car elles portent en elles la guidance de notre Seigneur bien-aimé. Durant cet épisode, Mariama Ozturk, spécialisée dans l'accompagnement des parents et des adolescents depuis 12 ans, nous fait la joie et l'honneur de délivrer des conseils clairs, avisés et adaptés aux problématiques que rencontrent nombre de parents adolescents. À quel moment parler d'amour avec mes enfants? Dois-je réellement aborder la question de l'intimité au sein de mon foyer? Que faire lorsque j'apprends que mon ado a des relations hors mariage? En plus de ces réponses avisées, Mariama nous rappelle également les challenges colossaux auxquels nous devons tous faire face, à quel point nos adolescents font preuve d'un courage désarmant, et qu'il est important de leur rappeler à quel point ils sont inspirants. À l'image du public qui nous en a inspiré l'idée, cet épisode est empli d'amour, de positivité et d'espoir. J'ai pris grand plaisir à l'enregistrer et j'espère de tout cœur que vous en prendrez tout autant à l'écouter. Je remercie Mariama pour sa disponibilité et sa sincérité et sans plus tarder, je vous laisse profiter de notre conversation. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mariama, comment vas-tu?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Madina. Je vais bien,
alhamdoulilah. Tu vas bien?
Ouais, alhamdoulilah, barakallahu fik en tout cas de cette invitation. C'est vraiment un plaisir déjà de te retrouver, ça fait longtemps, machallah.
Absolument, c'est vrai. Vous ne le savez probablement pas, ceux qui nous écoutaient, mais Mariama et moi, on s'est rencontrés pour la première fois il y a environ 7 ans. Les choses étaient bien différentes pour toi comme pour moi. À l'époque, j'étais uniquement autrice des romans Naïva, je sais tout. Et puis toi, tu étais accompagnatrice essentiellement des adolescentes. Et les choses ont un peu évolué pour toi comme pour moi. Donc je suis ravie qu'on puisse se retrouver aujourd'hui dans de très belles circonstances, machallah.
Alhamdoulilah, c'est un plaisir partagé.
Alhamdoulilah. Écoute, Mariama, je vais te demander pour commencer de te présenter aux auditeurs pour qu'on puisse un peu comprendre pourquoi c'est important qu'une personne comme toi puisse répondre à nos questions aujourd'hui.
D'accord. Tout d'abord, je m'appelle Mariama, je suis originaire des îles Comores. Mariama Özturk, parce que mon mari il est turc, parce qu'on se pose souvent la question de Mariama Özturk, où ça vient. Du coup, voilà, la question est réglée. Je suis maman de trois filles, de 13 ans, 11 ans et 8 ans. Je me considère comme une femme engagée et qui souhaite contribuer à la nouvelle génération, à l'éducation de la nouvelle génération. Et comme tu as dit, je suis accompagnatrice auprès des adolescentes depuis 13 ans. Et depuis 2020, c'est un peu plus tôt, mais depuis 2020, concrètement, j'ai commencé avec les mamans, dans le sens où j'avais beaucoup de demandes de mamans qui me demandaient des conseils sur comment justement accompagner leurs enfants pendant la période de la puberté, de l'adolescence, etc. Et du coup, j'ai été invitée par plusieurs écoles privées, comme dans les mosquées, etc., à intervenir pour justement échanger avec ces mamans-là. Et suite à ça, j'ai créé un blog où justement je permettais de mettre mes idées, mes stratégies éducatives, et qui ensuite a découlé vers une école avec un programme d'accompagnement qui aide justement les parents qui se retrouvent en difficulté face aux questions sexuelles de leurs enfants, et dans lesquelles on les accompagne pour justement les aider à créer cette relation de proximité avec leurs enfants et les aider justement à aider leurs enfants à faire des choix conscients, respectueux et sains concernant leur relation à soi et leur relation aux autres, Inch'Allah.
Subhanallah, c'est magnifique. C'est une mission qui est pleine de belles ambitions et sur lesquelles on manque encore beaucoup d'intervenants sur le sujet, mais je ne doute pas que dans les années à venir, vous serez encore plus nombreuses. Et justement, ma prochaine question, ça porte un peu sur ça, à savoir que, donc, comme tu l'as très bien dit, tu accompagnes les mamans et puis les adolescentes sur les questions liées à l'éducation selon nos valeurs et plus précisément l'éducation sexuelle. Et je me dis, on n'est pas sur des métiers hyper ancien, c'est-à-dire qu'à l'époque où on allait voir le conseil d'orientation, je ne suis pas sûre que c'est vers ça qu'on aurait pu diriger. Donc ma question, en tout cas je me dis qu'il y a forcément eu un déclic qui t'a fait dire c'est vers ça que je veux tendre, parce qu'on n'est pas sur une vocation qui naît très très tôt. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de l'éducation. J'étais dans les finances. J'étais dans le milieu financier qui n'a, qui n'a rien à voir avec le monde de l'éducation. Et en fait, suite à la reprise de mes études en sciences religieuses, j'ai démissionné de mon poste d'agent financier pour être alignée à mes valeurs. Et j'ai eu ma première fille. Et à ce moment-là, je me suis posé la question... comment je peux me réorienter, qu'est-ce que j'aime bien, etc. Et ce moment-là, en fait, en regardant, c'est bizarre, mais je regardais par ma fenêtre et je me disais, et je regardais ma fille et je disais, mais quel exemple ma fille, elle aura? Quel modèle ma fille va avoir dans cette dunya? Et je me suis rendu compte qu'en étant moi-même maman, quand j'étais adolescente, j'aurais aimé qu'on réponde à mes questions existentielles, parce que, tu vois, j'ai repris mes cours de sciences religieuses, j'avais 21 ans, tu vois, et je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas ces ressources, ces connaissances-là, à cette période où, justement, on se pose énormément de questions existentielles.
C'est un enjeu considérable, en fait, c'est là qu'on en a besoin.
Ouais, justement, et en fait, on est en train de se construire, on est en train de construire notre identité, et absolument, on a besoin d'avoir des réponses qui, justement, valident nos valeurs, en fait, et notre identité musulmane. Et face à ça, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais créer un espace où je vais accueillir des adolescentes musulmanes, où justement, j'ai envie de leur transmettre en fait tout ce que j'apprenais dans mes cours de sciences religieuses, de fiqh, de sira et tout. En fait, tu sais, quand on était adolescent, moi je suis de la génération des années 80, tu vois, et à l'adolescence, on n'avait pas... on avait la culture musulmane, mais on jeûnait, il n'y avait pas de prière, etc. Alhamdoulilah, à l'âge de 14 ans, c'est venu, mais il y avait des questionnements. Tu vois, j'avais des questionnements, je priais parce que je voulais demander à Allah de me pardonner, etc. Mais j'avais pas des réponses, tu vois, existentielles sur pourquoi je suis musulmane, pourquoi les femmes, elles doivent se voiler, pourquoi il y a certaines choses qui sont interdites, etc. Et je me suis dit, ce que je vais faire, je vais répondre à ces questions de ces jeunes filles qui peut-être aussi se posent les mêmes questions et qu'elles se retrouvent en contradiction avec les valeurs occidentales et les valeurs musulmanes. Et suite à ça, en fait, j'ai eu des questionnements qui étaient tout le temps liés à l'amour.
Et ça, c'est les jeunes filles que tu as invitées dans cet espace-là qui avaient ces questions-là?
Oui, en fait, elles avaient des questions, tu sais, Mariama, pourquoi en fait on peut pas sortir avec des garçons? Pourquoi l'islam est interdit de sortir avec des garçons? Pourquoi, par exemple, tu vois, moi j'ai une copine qui est musulmane et pourtant elle sort avec des garçons. Par exemple, j'ai une amie à moi, elle a 13 ans et elle a avorté. Voilà, comment je peux l'aider? Elles étaient vraiment dans une idée d'aide, d'entraide, vraiment. Mmh. Et dans une idée aussi d'incompréhension. Elles ne comprenaient pas en fait les comportements de certaines musulmanes et du coup elles se disaient, on me dit ça, mais en même temps, je vois d'autres faire le contraire. Mmh. Et suite à ça, je ne vais pas te cacher, j'étais un peu démunie et désemparée parce que, comme j'ai dit, moi, je viens du milieu des finances, j'avais repris mes études de sciences religieuses. Je me suis dit, mais comment je vais aider ces jeunes filles sur ces questions-là, en fait? Et j'ai tout simplement décidé, en fait, d'aller me former. Et là où j'habitais, dans le 94, il y avait la maison des adolescents qui proposait des formations autour de la psychologie de l'adolescent, autour des addictions, etc. Et en allant à là, dans ce milieu-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on amène nos enfants à ce type de comportement, en fait, tu vois. Et on m'avait distribué un livre autour des questions des adolescents sur l'amour, la sexualité. Et j'étais choquée. J'ai encore ce livre, tu vois, mais je l'ai caché en haut de ma bibliothèque parce que je veux absolument pas que mes enfants tombent dessus. Et j'ai été choquée parce qu'en fait, j'ai trouvé très pornographique ce livre. Dans le sens où on mettait des images vraiment à l'encontre de notre religion et qu'on offrait ce livre gratuitement à nos jeunes.
À la maison des adolescents, c'est ça en plus, dans un autre. Non. Qui est censé les recevoir?
Non, non, non. Ces livres-là étaient distribués au collège.
En fait. Ah oui, d'accord.
Et en fait, quand j'ai eu ce livre, je suis partie voir mes jeunes filles. J'ai dit, les filles, est-ce que vous avez reçu ce type de livre à l'école et tout? Et plein de jeunes filles ont dit, ah oui, maman, je l'ai eu, je l'ai donné à ma mère. Et après, alhamdoulilah, j'avais la chance, c'est que les premières jeunes filles qui venaient, j'avais une très bonne relation avec leur maman. Du coup, on avait cette possibilité d'échanger, de dire, voilà, faites attention, il va y avoir ce livre. Et du coup, les filles donnaient le livre directement à maman. Et on échangeait, on disait, faites attention parce que ce livre ne correspond pas à nos valeurs et qu'il y a des images qui ne sont pas appropriées au niveau de la pudeur et qu'on doit regarder, etc. Et en fil en aiguille, je continue à me former et là, je me forme auprès d'une sexologue qui justement va m'ouvrir les yeux sur la perversité sexuelle et dans lequel je me dis non, il faut que le nombre de parents et le nombre de jeunes filles musulmanes soient informées et aient connaissance de cela pour que justement on puisse préserver notre foi et préserver notre santé mentale concernant ces questions-là, puisque nous on a des valeurs vraiment profondes concernant le mariage, concernant la chasteté, etc. Et du coup pour moi c'était très important de maintenir ces valeurs au sein de nos foyers, Inch'Allah.
Waouh, subhanallah, c'est impressionnant parce que de ma compréhension, en fait, tu es partie d'une rétrospective des questions que tu te posais en te disant je vais répondre aux questions auxquelles moi j'aurais aimé qu'on me réponde finalement. Et puis finalement, tu réalises que, et c'est la justesse un peu de ta réflexion, c'est que tu t'es réadaptée à la réalité en fait des personnes que tu voulais accompagner et tu as réalisé à quel point ces jeunes filles avaient des questions qui n'étaient finalement pas basées directement sur la spiritualité, mais qui ont des conséquences profondes sur notre spiritualité. Le fait d'avoir des relations amoureuses hors mariage, évidemment que ça a des répercussions sur notre spiritualité. Le fait de ne pas comprendre pourquoi on ne peut pas avoir de relations avant le mariage, ça peut avoir un impact sur notre spiritualité aussi. Avant qu'on aborde la question de la sexualité, etc., parce que ça, j'aimerais vraiment qu'on en parle, j'aimerais revenir sur deux choses. La première, c'est que tu as dit que c'était nous qui amenions à ce type de comportement auprès de nos enfants. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Parce que ça m'intéresse beaucoup, puisque je pense qu'il y a beaucoup de parents qui veulent bien faire et qui réalisent pas que peut-être dans leur décision éducative, il y a des conséquences que derrière, ils pourront pas maîtriser.
Repose-moi ta question. Redis-moi ta question.
Oui, ma question, c'est que à un moment donné, dans ton discours, tu as dit que tu t'étais renseignée que quelque part, c'est nous qui amenons nos enfants à ce type de comportement. Est-ce que tu parlais du comportement du fait d'avoir des relations hors mariage ou est-ce que tu parlais du fait de se poser autant de questions? Et si oui, comment mieux faire, en fait?
Non, en fait, ce que je disais, c'est que on a un ennemi. Mon professeur de Fichry nous disait ça. Il dit, l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas notre ennemi. Et l'un des ennemis qui nous a été déclaré, c'est Shaitan, c'est sûr. Mais aussi, il y a des hommes avec un grand H qui sont nos ennemis. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que quand je faisais mes formations, il y a un ennemi qui est puissant et qui utilise des moyens. Et comme je te disais par rapport au livre que je t'ai dit, c'est un livre qui a été distribué gratuitement dans les collèges. Du coup, en fait, il faut qu'on prenne conscience que l'ennemi a sa stratégie, en fait. Et nous, en tant que parents, il faut qu'on puisse développer cette stratégie de comment je vais préserver la foi et la santé mentale de mon enfant. Parce que demain, je vais me retrouver, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, qu'on soit croyant ou pas, on croit tous à la mort. Et notre finalité à tous, ce sera la mort. Et du coup, en fait, en tant que croyant, on sait que quand on va mourir, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous poser des questions sur notre responsabilité en tant que parent. Et la responsabilité qu'on doit avoir et prendre conscience, c'est que nos enfants sont une amana. Et face à cette amana, quels moyens, quelles stratégies je mets en place pour l'accompagner face aux défis auxquels il fait face. Et là, le message que je donne aux parents, c'est l'ennemi a des stratégies bien précises et qu'il les met en place au quotidien. Et il faut que nous aussi, on soit prémunis et soit avant-gardistes pour justement avoir aussi des stratégies pour préserver la foi de nos enfants.
Que la Spartala nous facilite, on en reparlera dans quelques instants parce que je pense que c'est un élément clé de notre discussion. Mais avant d'aller sur ce sujet-là, la deuxième question que je voulais te poser, c'était justement par rapport à l'amour. Tu l'as très bien dit, beaucoup des adolescentes que tu as interrogées en premier lieu se posaient des questions sur l'amour. Et autant, je pense qu'on commence en tout cas à comprendre, voire on a compris pour certains qu'il fallait vraiment reprendre pas le pouvoir, mais si un peu quand même, en tout cas qu'il fallait reprendre le dessus sur l'éducation, notamment sexuelle, auprès de nos enfants, parce que en face, il y a des forces vives, très motivées, qui ont pris ce sujet à bras-le-corps. Autant, je trouve que l'éducation à l'amour, c'est complètement laissé à l'abandon. Je pense qu'on n'a pas encore compris à quel point c'était un socle déterminant, je trouve, en tout cas, dans l'épanouissement de nos vies d'adultes. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un âge pour parler d'amour à ses enfants? Et si oui, comment est-ce qu'on peut adapter le discours à la tranche d'âge de nos enfants? Parce que j'imagine qu'on ne parle pas de l'amour à un enfant de 6 ans comme à une adolescente de 12 ans.
Alors déjà, je voudrais savoir, c'est quoi l'amour?
Tu vois, ma question, c'est un peu ça, en fait. Ma question, c'est est-ce que... moi, en tout cas, là, en l'occurrence, je te parlais de l'amour entre un homme et une femme. Je te parle vraiment de cet amour-là. Est-ce que... Mais c'est une super question. C'est est-ce que, du coup... est-ce qu'on doit en parler à nos enfants et si oui, est-ce qu'on est suffisamment armé pour savoir justement ce que c'est l'amour, tu vois, c'est presque une deuxième question finalement.
Moi, ce que tu sais, en fait, moi je parle pas de sexualité avec les adolescentes. Moi je parle d'amour, c'est-à-dire que de ce lien d'amour, parce qu'on est des êtres d'amour, des êtres, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit adorer. Il nous a créé pour l'adorer, et l'adorer veut dire en français énormément, aimer énormément. Du coup, en fait, en tant que parent, le lien d'amour doit être créé parce que ce qui fait que nos jeunes ont des relations sexuelles ou des relations hors mariage, etc., c'est parce que justement, on a oublié ce lien d'amour qu'on doit créer avec nos enfants. Déjà, ne serait-ce que d'expliquer à notre enfant qu'il est né d'une union d'amour, qu'il est né par l'amour de papa et maman. Ils se sont tellement aimés qu'Allah leur a donné ce cadeau-là, déjà. Et dans notre amour, on va montrer notre amour à notre enfant par les affections, par le fait de se toucher, le fait de se regarder, le fait de faire des activités ensemble et de nous montrer ce lien qui nous lie et que on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne t'aime pas parce que j'ai besoin que tu fasses des choses qui vont me plaire, etc. Je t'aime parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi mon cadeau. Et je pense que déjà, on doit replacer la définition de l'amour au sein de nos foyers pour justement ne pas perdre nos enfants, Inch'Allah.
C'est hyper beau et je retiens beaucoup de choses de ce que tu as dit, mais parmi les choses qui m'ont marqué, c'est de dire que, tu vois, moi je te disais, là je parle de l'amour entre un homme et une femme, mais quelque part, on peut commencer à leur parler d'amour en parlant de l'amour qu'on leur porte, en fait. Et puis après, de développer sur l'amour entre un homme et une femme, et un amour évidemment qui est triangulaire. Et je pense que tu as raison, c'est essentiel d'aborder cette notion très jeune, parce que quand on ne l'aborde pas très jeune, on est face à des contenus, mais j'allais dire on en parlera plus tard, mais on peut en parler maintenant aussi, des contenus, et par là j'entends très clairement des films, des séries télé, nous on était plutôt génération Beverly Hills, comment s'appelle, les frères Scott, Dawson, c'est des relations extrêmement bidirectionnelles, un homme et une femme s'aiment, et l'un est tout pour l'autre et vice versa, et Allah il ne fait jamais partie de l'équation, et la réalité c'est que tu construis du coup ton schéma amoureux en fonction de ce que tu as vu pendant très longtemps, jusqu'à ce que tu finisses par comprendre que en fait si tu mets pas dans l'équation, ton calcul il sera toujours faux, ça ne fonctionnera jamais. Donc ma question c'est, est-ce qu'on doit interdire à nos enfants ce type de contenu, ou est-ce qu'on peut trouver un entre-deux? Parce que moi j'ai quand même la conviction, je le dis, c'est même pas je pense, j'ai la conviction que ces supports-là ont été créés à dessein, et que j'ai surtout la conviction que ça a un impact profond sur notre construction derrière de l'amour, du mariage, puis derrière de l'intimité. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent, ou aux éducateurs en fait qui nous écoutent, parce qu'on l'a tout à fait dit hein, avant qu'on enregistre, une tante peut être une éducatrice et un oncle aussi.
Tout à fait. Déjà, moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est qui est l'auteur de ces films, séries, etc. Quel est son objectif derrière le fait de distribuer ce type de films et de séries? Quelle est la valeur qu'il y a derrière ces films et ces séries? Et tu as dit quelque chose, c'est que ça ne parle que de la relation d'amour entre un homme et une femme, et il n'y a jamais cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, c'est quand je regarde ces films et ces séries, est-ce que ça me rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça me rappelle que demain, je vais me rappeler d'Allah et que je vais rencontrer Allah? Est-ce que ça me rappelle de faire le bon comportement, ou ça m'amène à des comportements dans lesquels ça ne rentre pas dans mes valeurs? Et si j'ai souvenir, ces séries-là, c'était toujours des relations hors mariage.
Absolument.
De ces jeunes-là. Absolument. Ils avaient 15, 16 ans et c'était des amours de collège, etc. Est-ce que dans notre religion, Allah nous dit d'avoir des amourettes de 15, 16 ans hors mariage, etc. Ça, c'est des questions qu'en fait, en tant que parent, on doit se poser avant de se poser devant un film et de le proposer à nos enfants.
Ça, c'est la première question, et j'ai envie de dire c'est la première étape. Mais la deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réalité, c'est que les enfants, ils ont envie de regarder ça. Et en plus, nous, à notre époque, il y avait quelques séries le week-end. Aujourd'hui, on est sur des plateformes. Et en fait, moi, j'ai envie qu'on réponde à ces questions-là, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont encore confrontés à ce type de choses. Il y a encore beaucoup de foyers dans lesquels il y a Netflix, il y a Amazon Prime, et les enfants, pour se divertir, ils regardent ce genre de séries ou ils regardent ce genre de livres, parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais les ouvrages aujourd'hui, il y a quand même un véritable tournant dans la manière d'explorer les relations amoureuses, que ce soit avec des personnes du même genre ou que ce soit avec une sexualité qui est très, 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 très loin de nos préceptes religieux. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à ses parents? Est-ce qu'on leur dit virer Netflix? Est-ce qu'on leur dit, clairement en fait, est-ce qu'on leur dit d'interdire à leurs enfants d'avoir de tels supports sous leurs yeux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Ce sera en fonction de leurs objectifs. Quel est l'objectif qu'ils ont de leur enfant? Quel adulte ils veulent avoir demain? Tu as dit que nos enfants, ils ont envie de regarder. Non, on donne envie à nos enfants de regarder ça. L'ennemi donne envie à nos enfants de regarder ça. Je n'ai pas de pouvoir sur ce que les réalisateurs décident de faire en termes de films, etc. Mais j'ai un pouvoir au sein de mon foyer. J'ai le pouvoir de dire j'ai envie ou j'ai pas envie de regarder. J'ai envie de regarder parce que franchement, c'est super divertissant, ça répond à mes besoins, ça répond à mes valeurs, etc. Je n'ai pas envie de regarder parce que ce film ne correspond pas du tout à mes valeurs et va t'amener à avoir des désirs qui ne correspondent pas à nos valeurs profondes. Du coup, en fait, c'est toujours la responsabilité aux parents de savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement au sein de son foyer. D'accord? Et dans l'alternative, bah ok, je t'interdis de regarder ces dessins animés, je t'interdis de regarder ces films, je t'interdis de regarder Netflix, mais qu'est-ce que je vais apporter comme alternative? Et le problème, en fait, c'est que on interdit quelque chose, mais on n'apporte pas d'alternative. Et les alternatives sont nombreuses. Aujourd'hui, on nous offre que des choix devant l'écran. Alors que sortir à l'air pur, sortir faire de la randonnée, sortir aider une personne malade, on peut avoir autour de nous des voisins qui sont malades et qui ont envie d'aller à la mosquée, ne serait-ce, des élèves qui ont des difficultés et dire bah, « mon enfant, je vois que tu es fort en maths, peut-être que tu pourrais être un élève et un appui pour ta petite sœur ou ta petite cousine ou le petit voisin qui a des difficultés ». Aujourd'hui, on n'amène qu'à être dans la passivité et que dans des plaisirs immédiats. Tu as besoin de te distraire, va devant l'écran. Tu as besoin de te distraire, va dans les réseaux. Mais est-ce que cela nous apporte un bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ou cela ne nous rapporte qu'un bonheur immédiat?
Ouais, je te remercie vraiment beaucoup, Barakallahu Fik, Mariama, parce que je pense que c'était important qu'on creuse dans le quelles sont les alternatives. Et puis, qu'est-ce qu'il faut... C'est pas qu'est-ce qu'il faut dire aux parents, parce que je veux dire, on n'est pas... on n'est pas là pour donner des leçons, loin de là, mais c'est plutôt pour apporter des solutions. Et je te remercie profondément, Barakallahu Fik, d'en avoir apporté de nombreuses. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ce que tu viens de dire et ton programme qui s'appelle Oser éduquer. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est recontacté pour préparer l'interview, j'avais dit que je n'avais pas compris pourquoi oser éduquer. Mais en fait, ça prend tout son sens de par ce que tu viens d'expliquer. Que finalement, avoir des adolescents épanoui, ça passe par des parents qui osent mettre en avant leurs valeurs islamiques et qui osent s'armer face à toute une ribambelle de contenus, de stratégies qui sont mis en place pour que nos enfants tombent de l'autre côté de la barrière.
Tout à fait, et je parle en connaissance de cause. C'est, tu vois, j'ai choisi oser parce que, ne serait-ce que par ma propre expérience, j'ai dû oser. Tu vois, ne serait-ce par ma propre expérience, franchement, en tant que parent musulman, il faut du courage pour éduquer, c'est un vrai...
Pourquoi il faut du courage? Enfin, est-ce que tu peux expliquer? Parce que comme on disait, c'est vrai, alhamdoulilah, en tant que tata, tonton ou d'autres personnes, on a vraiment à cœur d'aider et d'accompagner nos véhiennes qu'on considère comme nos enfants, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que moi, je me dis toujours, mais pourquoi il faut du courage, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il faut du courage pour éduquer son enfant en 2024 dans un pays non musulman? C'est peut-être un peu naïf, j'ose poser la question.
Dans le sens que toi, dans ton foyer, tu vas lui enseigner des valeurs, comme le respect, la pudeur, l'amour du savoir, etc. Mais que tu as face à toi, il faut être honnête. Hein. Aujourd'hui, le contenu qu'on propose à nos enfants, c'est que du contenu où il y a de la méchanceté, il y a de la médisance, toutes les maladies du cœur, en fait. La jalousie, la séparation entre un père et son enfant, la mère et son enfant. Du coup, ces contenus ne sont pas créés en vain. Je te donne un exemple. J'avais lu une étude d'un psychologue qui parlait des téléréalités. Ça a commencé en 2000, hein, les téléréalités. Et il expliquait qu'en fait, tous ces contenus, ils ont repris tous les comportements et tous les mauvais comportements, à dire la vérité, et sont amenés à ce que, quand tu regardes quelque chose, bah, tu vas limiter l'effet miroir. Tu vas limiter automatiquement. Mmh. Et du coup, en fait, le fait de créer les petits moments où on est devant la caméra, on parle que « oui, elle a fait ça », on médit, en fait. Ça veut dire que on est en train de dire à notre enfant, bah, quand tes copines ne sont plus là, tu peux médire de ta copine et dire, elle a fait ça, c'est pas bien, etc., etc. Mmh. Ne serait-ce que entre nous-mêmes, parfois, on hait nos enfants. Parfois, il y a des enfants qui haient leurs parents. Et d'où ça vient cela? Et pourtant, le verbe haïr, c'est vraiment une émotion forte, quoi, tu vois. Et pourtant, tout ce qui est autour de l'éducation de nos enfants n'amène que à ça, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on soit conscient que il faut vraiment du courage pour dire je vais à contre-courant. Tout le monde va dans ce sens-là et dit mais je suis obligée de donner ça à mon enfant, je suis obligée qu'il regarde ça, etc. Et du coup, toi, tu es à contre-sens à dire non, j'ai le droit de choisir, en fait, parce que cette responsabilité m'est donnée à moi, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Et Allah, il a décidé que c'est toi que je te donne cet enfant. Et du coup, comment tu vas éduquer cet enfant-là? Et du coup, moi, j'ai cette responsabilité vis-à-vis de mes trois filles de choisir, de faire les bons choix et qui vont en fonction de mes valeurs profondes. Et alhamdoulilah, en tant que croyante, on a un livre qui est clair, qui nous donne des règles claires, et on a un enseignant clair, le prophète Mohammed SAW, qui nous donne la clarté en termes de comment on doit vivre en société, comment on doit être ne serait-ce dans le couple, comment on doit être avec nos enfants, comment on doit éduquer nos enfants. Tout cela a été enseigné. Et du coup, en fait, il faut énormément du courage pour dire non à la société qui, justement, ne cesse que nous, déjà nous-mêmes, en tant que femmes musulmanes voilées, nous renvoie que des lois pour braver nos droits, en fait. Ne serait-ce nos droits éducatifs. Aujourd'hui, on nous interdit de faire l'école à la maison, puisque l'école à la maison, l'école, on nous dit, c'est obligatoire. Non, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et c'est aux parents de choisir où il veut mettre son enfant. Mais quand toi, tu prends conscience de ça et que tu dis, j'ai envie d'utiliser mon droit de choisir où j'ai envie de mettre mon enfant, bah on te dit non. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que tu donnes certaines valeurs et qu'on veut que tu suives le moule, en fait.
Mmh. Ah, c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est à la fois intéressant et c'est vertigineux. Je voudrais revenir sur un terme. Tu sais, tu disais, on n'est pas obligé, parce que parfois, on peut s'entendre dire, oui, mais je suis obligée de donner ces séries-là à mes enfants. Moi, mon propos, ce n'est pas dire je suis obligée, mais si, peut-être un petit peu d'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais c'était plutôt de se dire que c'est difficile de nager contre des vents contraires qui sont vraiment des torrents. Et d'ailleurs, en parlant de vents contraires, tu vois, moi, je pense à tous ces enfants musulmans qui sont scolarisés dans des écoles publiques ou privées catholiques et qui sont confrontés, là, vraiment, confrontés sous leurs yeux à une vision, à une pratique de l'amour qui sont toutes les deux très différentes, très éloignées de ce à quoi l'islam nous enjoint. Hein, quand on est au collège, quand on est au lycée, parfois même quand on est en primaire, on voit des personnes se fréquenter allègrement, s'embrasser. Il y a une notion de la mixité qui est très loin de ce à quoi on nous enjoint. Et moi, ma question, c'est comment on peut les armer face à ça ? Parce que tu vois, il y a ce que toi, tu mets en place en tant que parent dans ton foyer en te disant « ça rentre pas chez moi ». Mais la réalité, c'est que dès lors où tes enfants fréquentent un endroit sur lequel tu n'as pas la main, il faut les armer pour l'extérieur. À l'intérieur, ok, tu as mis des garde-fous, mais à l'extérieur, comment ils font ? Et j'ai vraiment « comment les armer ?» C'est un terme que j'utilise à dessein parce que, comme tu l'as très bien dit, Iblis nous a déclaré la guerre et cette guerre, elle passe par ses suppôts, par les personnes qu'il a mis en place et parfois par les personnes qu'il a mis en place au sein des stratégies qui sont liées à nos établissements scolaires, malheureusement.
Bah, c'est pour ça que je dis « oser », il faut vraiment du courage parce que tu vois, regarde, nos jeunes vraiment sont... Ils ont beaucoup de courage, il faut dire la vérité. Ils sont dans un environnement qui les pousse, tu vois, à la perversité. Et cependant là, on voit des jeunes qui tiennent le coup, en fait.
C'est beau ce que tu dis, vraiment, pardon, vraiment, je t'interromps 30 secondes, mais je trouve que c'est magnifique de rappeler que nos enfants, ils ont du courage. Parce que je pense qu'on tend à l'oublier.
Énormément.
Ouais, je trouve que c'est hyper juste.
Mais énormément. Énormément. Moi, quand j'étais avec les jeunes filles, moi, je disais... Et en plus, moi, j'avais des jeunes filles, tu sais, à 12 ans, elles se voilaient, elles allaient à l'école, elles se faisaient critiquer, elles se faisaient insulter. Et pourtant, elles étaient... Mais non, mais je ne l'enlèverai pas. Franchement, moi, je trouve que nos jeunes filles, elles nous éduquent sur le courage. Et pour te dire, pour être sincère avec toi, c'est elles qui m'ont donné cette notion de courage, cette notion de oser, parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils s'affirment beaucoup plus que nous à leur époque. Ils sont, et je pense que c'est la force de l'épreuve qu'ils vivent, qui les pousse encore plus à vouloir être déterminés dans leur foi. Et après, il faut qu'on les accompagne bien. Pour répondre à ta question concernant comment les armer, bah, on les arme à la maison en leur donnant les clés que... Tu as cité tout à l'heure, tu as dit que Iblis nous a déclaré la guerre. Mais Allah, elle a dit que tu ne toucheras pas mes serviteurs dévoués. Du coup, en fait, Allah, il faut qu'on regarde ce que Allah nous a donné comme arme pour justement faire face à l'extérieur. Parce que même le prophète Mohammed, à l'extérieur, il faisait face à sa propre famille, des fois, qui lui jouait des tours. Du coup, c'est lui apprendre déjà la notion de la pudeur. Il faut apprendre à nos enfants qu'est-ce que la notion de la pudeur. Qu'est-ce que la aura, c'est-à-dire quelles sont les limites de la décence que je dois avoir en regardant l'autre et en termes de ma tenue vestimentaire. Il faudrait lui apprendre aussi à baisser le regard. Dans la sourate An-Nisa, on a pas mal de versets qui nous expliquent pourquoi il faut baisser le regard, etc. C'est pas de marcher la tête baissée, mais c'est de prendre conscience que le premier regard, il est à Shaitan, mais le deuxième, c'est moi qui ai la conscience dessus et que je dois y mettre une pensée sincère en me disant est-ce que ce que je regarde là correspond à ma valeur et dans la décence en termes de la pudeur, en termes de la bille, etc., etc. En donnant toutes ces ressources à mon enfant, il est dans la capacité. En fait, aujourd'hui, on a trop enfantilisé les enfants. On les rend bébés.
Oh là là, est-ce que vraiment on a des jeunes qu'on commence à parler de qu'on rentre sur ce sujet-là, parce que vraiment, on va faire un podcast de 3 heures. Vraiment, je ne suis pas certaine.
aujourd'hui, t'as un jeune de 15 ans, c'est un homme. Et il ne faut pas oublier la règle, c'est que dès que nos filles, en termes de majorité, devant Allah, dès que nos filles, elles ont leurs règles, elles sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et un garçon, c'est la même chose en termes de sa première éjaculation de sperme. C'est déjà un adulte, en fait. Et du coup, il faut qu'on soit conscient de comment Allah... Parce qu'on regarde en Occident, à 18 ans, t'es majeur. Mais en islam, c'est pas comme ça, en fait. Mmh. Et en termes d'adolescent, il n'y a même pas, en fait, aussi, tu vois. L'adolescence, c'est un terme qui existe que depuis un siècle. Et du coup, il est important de savoir que nous, on éduque les futurs adultes de demain. Et que les futurs adultes de demain, il faut les préparer à comment ils doivent vivre à l'extérieur. Et ça, c'est super important.
Waouh, t'as dit plein de choses sur lesquelles j'aimerais vraiment beaucoup rebondir. La première chose, pour faire dans l'ordre, c'est que je trouve que c'est très intéressant de dire que pour armer nos enfants face à ce genre de situation, il faut pouvoir les éduquer sur l'importance de la pudeur. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire qu'on peut déjà commencer par là, en fait, de se dire qu'avant de rentrer dans des grandes théories ou avant de leur dire halal, haram, de rappeler à nos enfants que là, il va être confronté à des endroits qui sont... Qui pousse à l'impudeur, en fait, que ce soit, comme tu dis, l'impudeur vestimentaire ou l'impudeur au niveau du regard. Très important, parce que là, ça met tout le monde sur un même pied d'égalité, qu'on soit un jeune adolescent ou une jeune adolescente. Tout le monde doit faire preuve de pudeur, et c'est extrêmement important. Je trouve que c'est beau, c'est hyper intéressant de se dire que ça peut être une belle arme, en fait. Tu l'as dit, hein, la deuxième arme qui est quelque part la première, c'est de toujours garder à l'esprit les préceptes de notre créateur et de faire en sorte de pouvoir leur transmettre d'une manière générale. Et le troisième que moi je rajouterais, c'est que charité ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que montrons à nos enfants, faisons preuve nous-mêmes de pudeur, et c'est quelque chose auquel je nous enjoins tous, hein. Je m'inclus moi la première, hein. C'est pas du tout un ordre que je donne en disant « moi c'est fait !» Pas du tout, parce que de toute façon, je le répète, je n'ai pas d'enfant, mais il y a vraiment je pense, cet élément-là, parce que on a des parents, alhamdoulilah, et on voit à quel point l'exemplarité dont ils ont pu faire preuve nous aide aujourd'hui au quotidien. Moi, dans un autre exemple, je vois que dans mon mariage, je reproduis des comportements que j'ai beaucoup aimé voir chez ma mère. Elle m'a pas donné ce conseil-là en me disant « Madina, fais ça ». Mais je l'ai vu faire, j'ai vu les fruits de tout ça, et je me dis « ça, je l'emmène avec moi dans mon mariage ». Donc l'exemplarité, je trouve que c'est extrêmement important. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, en fait il y en a deux, c'est que tu as tout à fait raison quand tu dis que l'adolescence, c'est un concept qui a été inventé il y a environ un siècle. Et ça, Mariama, c'est toi qui me l'as appris il y a 7 ans. Et je n'oublierai pas, alhamdoulilah, je te redonne ta couronne, comme on dit. Parce que moi, je m'en souviens, quand tu m'as dit ça la première fois, je me suis dit, mais comment ça, ça a été inventé? Mais évidemment qu'il y a l'adolescence, évidemment, qu'on a les crises d'adolescence, qu'on traverse tout ça. Mais en fait, ce que tu m'avais expliqué très justement, c'est que de base... Il n'y a pas l'adolescence, c'est une nouvelle étape, en fait, qu'on a créée. Aujourd'hui, elle est réelle, elle est sous nos yeux, mais de base, on n'est pas obligé de passer par tout ça. On n'est pas obligé de passer par la crise d'adolescence, on n'est pas obligé de... Normalement, c'est t'es un garçon, t'es une fille, t'es un petit garçon, t'es une petite fille, puis après, t'es un jeune homme, t'es une jeune femme. L'adolescence, il n'y a pas. Et je me dis l'islam a vraiment cette logique-là, parce que quand on le voit dans nos sociétés occidentales, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit de nos enfants que ce sont des enfants jusqu'à un âge parfois canonique, vraiment. Et pour autant, on leur donne la liberté sexuelle. On te dit your body, your choice, your body, your rule. Donc d'un côté, on te dit ça. D'un côté, on te dit t'as le droit d'avoir des relations sexuelles, parce que c'est de ça dont il s'agit, mais t'es trop jeune pour avoir un enfant. T'as le droit de sortir avec des garçons, mais tu vas pas te marier quand même. Il y a une dissonance cognitive qui n'est pas bonne. Alors, je ne dis pas mariez vos enfants à 13 ans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je dis, je pointe juste la dissonance cognitive, et je te remercie de l'avoir souligné à nouveau sur le podcast.
Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les stratégies de l'ennemi, on est conscient. En plus, aujourd'hui, il le dit ouvertement. Hein. Par exemple, quand il dit « on va parler d'éducation à la sexualité », mais aujourd'hui, on est en train de voir qu'on est en train de légaliser la pédophilie, par exemple, la pédocriminalité. Parce que comme tu dis, ils disent que t'es majeur qu'à 18, et même l'adolescence, c'est jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 25 ans si t'es encore chez tes parents, etc. Mais pourtant, à 6, 7 ans, on te dit, si t'as des plaisirs, tu peux les assouvir, etc. Mais aujourd'hui, sur le terrain, on tombe sur des problèmes d'inceste, des grands frères qui vont tester la sexualité sur leurs petits frères ou leurs petites sœurs parce que justement on leur donne des idées à n'en plus finir en fait, ou des jeunes hommes ou des jeunes filles qui tombent, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui tombent sous le coup de contenu addict à du contenu intime qui n'est pas autorisé, voilà, qui n'est pas autorisé, et du coup en fait il faut se poser, il faut être vraiment avant-gardiste, et c'est pour ça que je dis il faut vraiment beaucoup de courage aujourd'hui pour tenir le coup, parce que on est pris de tous les côtés en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une dernière question concernant l'amour et les adolescents, c'est est-ce qu'on doit prendre au sérieux les histoires d'amour de nos enfants? Prenons un exemple, je suis un parent et je découvre que mon enfant soit est amoureux d'une personne, soit il a une relation amoureuse avec une autre personne. C'est quoi la meilleure des réactions à avoir en tant que parent musulman?
Déjà, se poser, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il a eu cette relation? Qu'est-ce qui fait que mon enfant ait eu cette relation, dans le sens qu'est-ce que je lui ai enseigné pour justement prendre conscience que la relation entre une fille et un garçon, c'est dans le mariage. Tomber amoureux, c'est pas un problème, hein, parce que l'amour, comme on a dit tout à l'heure, c'est, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite, les jeunes tomberont amoureux plus de 19 fois jusqu'à 19 ans, quoi, tu vois. Mais tomber amoureux, c'est un sentiment. Je ressens de l'amour, une attirance vers une personne. Après, c'est très bien que tu aies cette attirance et ces sentiments, et c'est noble, parce que Allah, il nous a créé pour justement avoir cette attirance et cet amour pour l'autre sexe. Et je précise bien, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est avec le même sexe. Et ça, il faut que les parents le prennent conscience. J'étais tombée sur le cas de cette jeune fille de 14 ans qui flirtait avec une autre fille. Du coup, déjà, quand nos enfants ont un sentiment amoureux vis-à-vis de l'autre sexe, on dit « Alhamdoulilah ». Et après, c'est de dire Allah subhanahu wa ta'ala nous juge en fonction de nos intentions. C'est-à-dire que quelle intention tu vas mettre et quelle action tu vas mettre suite à ce sentiment d'amour. Ce n'est pas parce que tu es amoureux et que tu ressens un désir vis-à-vis de cette personne qu'il faut tout de suite passer à l'acte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la société dans laquelle on vit, c'est « t'es amoureux, teste, vois si c'est bien et après on verra ».
Absolument.
J'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Et tu as des valeurs, mon enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera, parce qu'il dit Allah, il récompense ce jeune qui s'est préservé, qui a gardé sa chasteté. Du coup, en fait, c'est de savoir quel enseignement je donne à mon enfant concernant ad-dunya et al-akhira, les récompenses. Parce que nous aimons les récompenses. Est-ce qu'on parle des récompenses qu'on aura le fait de se préserver jusqu'au mariage? Est-ce qu'on parle des récompenses qu'on aura de rester respectueux vis-à-vis de nos parents jusqu'à la fin de notre vie, etc. Du coup, en fait, il est important de revoir notre mode éducateur. Aujourd'hui, on lit énormément de livres sur l'éducation positive, l'éducation Montessori. Je ne suis pas contre ces éducations parce que j'ai lu aussi pas mal de livres dessus et ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'éducation de mes enfants. Cependant, j'ai une conviction profonde que dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed, on a la meilleure des éducations. Sachant que ces livres d'éducation prennent leur source aussi dans les différentes religions. Du coup, on n'a pas à envier de ces livres-là. On a juste à regarder, à ouvrir la sourate Luqman, ne serait-ce. Et regarder les sagesses qu'il y a dans la sourate Luqman, de regarder les sagesses qu'il y a dans la sourate Yusuf. Tout à l'heure, tu me disais quel divertissement je pourrais proposer à mon enfant. Mais proposez-leur de lire et de faire des assises autour du Coran. Quel meilleur film vous proposez à vos enfants? De parler du film de Youssouf, de parler de l'histoire de Moïse, de parler de comment Moïse a été fort vis-à-vis de Pharaon et des sagesses qu'il y a autour de ces histoires. C'est un Netflix à nous. Et il faut qu'on utilise ce Netflix qui est le Livre Saint et qui nous apporte énormément d'histoires. Et les histoires permettent de renforcer notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on montre d'autres histoires à nos enfants qui ne rentrent pas dans nos valeurs, on ne fait que renforcer ces valeurs-là auprès de leur cœur.
Je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, là, tu soulèves un point qui est crucial, à savoir redéfinir le divertissement. Tu vois? C'est-à-dire que, en fait, ne pas accepter que le divertissement, c'est être devant sa télé ou de faire du Netflix and chill, ça, c'est une définition du divertissement qui nous a été donnée, voire imposée. Mais la réalité, c'est qu'on peut se divertir différemment et que nos histoires à nous, effectivement, constituent une forme de divertissement, mais un divertissement qui est sain, en fait. Un divertissement qui ne nous amène pas comme tu l'as très bien dit précédemment, à noircir, entre guillemets, notre cœur. Ou en tout cas, à faire en sorte que notre cœur soit le dépôt de beaucoup de maladies. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ta réponse, Barakallahou Fik, c'est que déjà, t'as pas culpabilisé l'amour. Parce qu'en fait, souvent, je pense, quand on a peur et qu'on voit un enfant prendre une mauvaise décision, on va le dire comme ça, on a peur et donc on se met en colère. Et on lui dit, c'est n'importe quoi ce que tu fais, puis de toute façon, ça ne durera jamais, il se moque de toi, ça, on l'a entendu 100 fois. Hein. Ça, je pense que franchement, je ne fabule pas. Et en fait, ce que t'as proposé comme solution, à savoir de se dire, bon, ben, ce n'est pas le sentiment qui est, c'est pas sur ça en fait que tu seras interrogé, c'est sur tes actions de scinder les deux. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de pas. Parce que je pense qu'en fait, on perd les adolescents quand on leur dit ça. Oui, c'est n'importe quoi. Puis de toute façon, tu sais pas ce que c'est que l'amour. Moi, je trouve que c'est. Enfin, déjà, quand j'étais adolescente, je me disais, mais ça, c'est la pire des choses à dire parce qu'en fait, quand t'es ado et que t'entends ça, t'as qu'une envie, c'est de dire, il comprend rien. Moi, je l'aime vraiment. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que je sais jamais c'est laquelle partie du cerveau, mais la partie des adolescents, enfin. Quand on a en tout cas cet âge-là qui est le plus développé, c'est le cortex, je crois, je sais plus, mais en tout cas c'est une partie où c'est un peu le centre des émotions. Donc en fait, quand un enfant nous dit, quand un adolescent nous dit je ressens ça, c'est pas faux ce qu'il ressent, c'est juste qu'en fait c'est décuplé par rapport à ces autres parties qui elles sont un peu moins développées. Là où il y a le centre des décisions, etc., c'est un peu moins développé que là où il y a la partie où il y a les émotions. Donc il faut pas aller à l'opposé ou à contre-courant de ce que l'enfant ressent, parce que je pense que c'est là qu'on va plus le perdre qu'autre chose. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans la seconde partie de ta proposition, c'est de se dire, rappelons à nos adolescents, à nos enfants, l'intérêt de se préserver. C'est toujours se dire, voilà ce que tu as à gagner, mon enfant, et tu as beaucoup de choses à gagner. Ça, je pense que ça peut vraiment être des pistes de réflexion pour les parents, et vraiment, je te remercie, Mariama.
Après, tu sais, pour revenir sur ça, il faut tout simplement revoir la pédagogie qu'utilisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'avais entendu cette histoire où, tu vois, il y a un jeune qui demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux forniquer avec un tel, les compagnons, ils étaient énervés le fait qu'il pose cette question. Mmh. Et le prophète dit, tranquille, calmez-vous. Et il commence à lui poser des questions. En fait, la stratégie qu'on doit utiliser auprès de nos jeunes, c'est d'amener à ce que lui-même y réfléchisse. D'accord ? Il dit, est-ce que tu accepterais que quelqu'un fornique avec ta mère? Il a dit non. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un fornique avec ta sœur? Il a dit non. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un fornique avec ta tante, etc. Et il a continué à lui poser des questions jusqu'à qu'il comprenne que, bah non, il accepterait pas ça. Bah pourquoi lui, il accepterait de forniquer avec la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un, etc., etc. Du coup, en fait, il faut toujours avoir en tête l'adulte que je suis en train d'éduquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours cette pédagogie vis-à-vis de. Il connaissait la psychologie de chaque compagnon, de chaque personne qui venait l'interroger, et il interagissait avec lui en fonction de sa personnalité, en fonction de sa façon d'être, etc. Et du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut éduquer tous nos enfants de la même manière. Alors qu'on voit bien que dans une même fratrie, on a un qui aime plus le chocolat ou qui n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, aujourd'hui, on ne prend pas en compte en fait la diversité des personnalités, la singularité des personnes qu'on a en face de nous et l'objectif. En fait, je pense qu'on perd des fois l'objectif qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, pourquoi j'éduque cet enfant? Je l'éduque à devenir qui, en fait? Je l'éduque à devenir qui, auprès de qui déjà. Et quand je pars du sentiment de je te comprends, en fait, parce que nos jeunes, en fait, ils se sentent incompris, ils ont besoin d'amour, et l'amour, c'est un sentiment noble. Du coup, en fait, si ce jeune homme va dans les bras d'une autre fille ou cette fille va dans les bras d'un autre garçon, c'est parce que déjà son réservoir d'amour est vide et qu'il va chercher à le remplir avec autre chose, etc. Mmh. Déjà, il faut être dans cette justesse. Et généralement, les jeunes filles que j'accompagnais qui tombaient justement amoureuses d'un garçon, quand je prenais le temps de comprendre leurs émotions, et de dire, mais qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de ce garçon? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Qu'est-ce que tu aimerais construire avec lui? Est-ce que tu le vois que ce serait un bon père? Même quand on avait 15 ans, est-ce que tu vois que ce serait un bon père pour tes enfants? Est-ce que tu penses te faire construire ta vie avec lui? Et bien finalement, en posant toutes ces questions, je lui disais, bah, va poser ces questions à ce garçon, si tu penses qu'il sera capable de répondre, est capable d'aller voir ton père et ta mère, on discutera de cet amour. C'est de les mettre face à leurs responsabilités, finalement. Est-ce qu'on met face à nos enfants, à nos responsabilités, ou on est toujours maître de, sous le contrôle de, c'est moi qui décide? Mais comme tu as dit tout à l'heure, n'oublions pas que les enfants, ils aiment se rebeller. Un enfant où on lui dit de la négativité, à dire mais Starfall-là, c'est pas bon, etc., lui va se dire mais il comprend rien, bah, je vais continuer.
Surtout qu'en plus, eux, ils voient vraiment que de la beauté dans ce sentiment-là. Donc quand tu leur dis Starfall-là, c'est moche, bah, en fait, tu vas vraiment complètement à l'encontre de ce qu'eux voient, en fait. Au-delà même de leur esprit de rébellion, c'est que vous ne voyez pas du tout les mêmes choses. Et peut-être que l'idéal, ce serait vraiment d'emprunter ses lunettes le temps d'un instant, de se rappeler que nous aussi, on a eu leur âge et que nous aussi, on s'est sentis incompris. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un sentiment qui est presque humain de se rebiffer, d'être un peu énervé. Cette colère, elle arrive presque de manière instinctive et ça demande un travail, j'imagine, de la mettre sous cloche et d'avoir des outils pour répondre différemment. Et je te remercie parce que tu nous accompagnes vers la découverte de ces nouveaux outils. Alhamdoulilah. J'avais une question par rapport au sujet du mariage. À quel âge, selon toi, il est approprié de parler de mariage à ses enfants? Tu viens d'en parler, finalement. Tu vois, tu as donné un peu l'exemple en disant, c'est vrai, hein, tu as répondu à la question avant même de l'avoir entendu, machallah. Mais je te pose cette question parce que moi, je trouve que quand arrive la question du mariage, on est dans notre vingtaine. En fait, j'ai l'impression qu'on ne nous parle pas du tout du mariage, mais vraiment pas. Et puis un jour, on a 20 ans et on nous dit, hop, 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 faut que tu te maries là. Tu te dis, ah oui, d'accord, ok, il faut que je me marie. Sauf qu'en fait, tu ne sais pas ce que c'est que le mariage. Tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas les devoirs, tu ne connais pas, tu sais pas comment choisir un bon prétendant. Et pendant tout ce temps, c'est ce que tu disais, tu sais, au début d'interview, j'ai eu une éducation religieuse, j'ai repris une éducation religieuse à 21 ans, mais en fait, j'en aurais eu besoin plus tôt. Ben là, pour moi, c'est pareil au niveau de l'éducation du mariage. C'est-à-dire que tu commences à comprendre, pour les plus jeunes d'entre nous, ce que c'est que le mariage et ses impacts dans ta vingtaine, vraiment pour les plus jeunes. Mais la réalité, c'est que on aurait dû apprendre à mieux choisir plus jeune, parce que la réalité, c'est que on a des sentiments amoureux qui naissent, on a des choix qui peuvent se faire plus tôt. Donc ma question, c'est à quel âge, selon toi, on peut ou on doit aborder la question du mariage?
En fait, sur ça, c'est la connaissance. Et comme je t'ai dit, si on sort du côté mon enfant, il faut quand nos enfants ils nous regardent, ils nous voient en couple, en fait. Et je pense qu'en fait, la notion de mariage, t'en parles tout le temps, dans le sens où l'enfant il nous voit et il dit papa et maman, c'est quoi? Bah papa et maman, ils se sont mariés. Là déjà, on parle du mariage. Et à 10, 11, 12 ans. C'est de vraiment prendre ce temps de notion de... Cependant, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ta mère, du fait de l'exemplarité. C'est tout simplement quel exemple nous donnons à nos enfants concernant le mariage. Après, par rapport au mariage, généralement, c'est... comme je t'ai donné l'exemple de cette jeune fille de 15 ans, c'est parce que justement, voilà, elle a eu des... Nos filles, elles ont toujours des bonnes intentions, c'est ben, « je vais me marier avec lui », etc. et tout. Ben, quand ta fille, elle vient te dire « j'ai envie de me marier », c'est ben, « voilà, qu'est-ce que le mariage pour toi ?» Qu'est-ce que ça représente le mariage pour toi? Et après, comme j'ai dit, c'est d'avoir les connaissances autour du mariage. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit du mariage? Quelles sont nos règles, comme tu as dit, les devoirs? Tu vois, quand j'ai repris mes études à 21 ans, je les ai repris avec mon mari. Et on avait le cours sur le divorce. Et moi et mon mari, on se regardait à chaque fois, tu vois. Du coin de l'œil comme ça.
Ça ne te concerne pas, je te préviens.
Voilà, on se regardait du coin de l'œil. Voilà. On se regardait comme ça. Et tu sais. À chaque fois qu'on sortait du cours, on se disait « Alhamdoulilah qu'on fait ses cours ensemble ». Parce que j'aurais pu faire les cours tout seul, lui rester à la maison, faire son travail, etc. Et moi rentrer et dire « Ah ben tu sais, chérie, il a dit ça, tu dois faire ça, tu dois… » Et ça aurait été peut-être dans un système de conflit, tu vois. Alors que là, le fait qu'on l'ait entendu ensemble, on peut en discuter. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça? Toi, qu'est-ce que tu as compris? Et ça nous a permis aussi de sortir un petit peu de ce système occidental, tu vois, où c'est… où tu vois… Tu vois, le mouvement féministe, tu vois, j'aime pas dans le sens où, tu vois, on nous amène à être contre l'autre, contre l'homme, tu vois. Et ce prenant-là, de fait d'avoir fait ce cours, et je pense que la base des bases, c'est la connaissance. Il faut amener nos enfants de la connaissance à la conviction. La connaissance amène à cette conviction. Du coup, en fait, ces questions, on n'oserait même pas à se poser, dans le sens que si je sais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit « mariez vos enfants jeunes », etc., jeunes, on dit pas les marier à 12, 13 ans, parce que j'ai été une fois attaqué par rapport à ça, du coup, je fais attention. C'est quand le professeur Sam lui dit marier jeune, c'est quand vous voyez que vos enfants, ils sont en âge de se marier et que ils sont en âge de fonder un foyer, mariez-les. Et je te donne un exemple, on a des jeunes à 20 ans, ils veulent se marier. Et on leur dit non, faut que tu finisses tes études. Pourtant, les jeunes filles que j'ai accompagnées, quand en leur enseignant l'ensemble des priorités, elles faisaient des études de médecine, elles sont mariées dans leurs études de médecine ou sans, leurs études de Coran, ou tu vois, elles se mariaient pendant leurs études. Elles savaient qu'en fait, elles se prémunir des voilà, surtout qu'à l'université, tu sais bien comment ça se passe. Alors du coup, non, marie-toi, mais garde l'objectif, prends quelqu'un qui aura cette conscience que tu as envie de finir tes études, que tu as entamé des études de médecine, de marketing, de je sais pas quoi, etc. Et que c'est important pour toi et que est-ce qu'il est prêt à t'accompagner dans ce cheminement en termes de tes études ?
Oui, bien sûr.
Généralement, quand notre rôle en tant que parents, c'est d'apprendre à nos enfants à bien se connaître pour qu'ils savent justement, comme j'ai dit tout au début, à faire des choix conscients, sains et respectueux en fonction de leurs valeurs. Pour que quand on leur propose le mariage ou quand eux-mêmes, quelqu'un va venir leur proposer, ils soient dans la capacité de « lui ne va pas me sauver, je suis une, il est un, on va faire nous ». C'est pas « je suis une, j'ai besoin de lui pour m'élever ». On va être ensemble et le « nous » va faire des enfants, va faire qu'on va s'accompagner, va faire qu'on va être des compagnons, etc., etc.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la notion de mariage se perd dans le sens, on veut fuir quelque chose, tu vois. On veut être sauvé de quelque chose et on n'a pas pris ce temps de se retrouver avec soi-même.
Et puis je pense que la notion de mariage, elle se perd aussi parce que en fait, on a enlevé beaucoup de choses qui étaient un peu réservées au mariage, on les a sorties, et puis après on se dit, bon, en fait, cette petite boîte vide, à quoi ça sert ? Oh, bah ça sert à rien. Ah bah du coup, je me marie pas. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et encore, je pense que quand t'es dans une réflexion et quand t'es dans ta foi musulmane, c'est pas une boîte complètement vide, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu sors pas de ta boîte a priori, mais par contre, je pense que quand t'es pas... moi, je me dis toujours, moi, si j'étais pas croyante, est-ce que je me marierais même ? Tu peux tout faire en dehors du mariage. Tu peux vivre avec une personne en dehors du mariage. Tu peux voyager avec elle. Il y en a qui font des enfants en dehors du mariage. Bon, en fait, le mariage, ça devient une coquille vide, en fait. Et la réalité, c'est que même si dans les personnes qui pratiquent l'argent musulman, on n'est pas arrivé à ces extrémités-là, la réalité, c'est que on part en voyage, on fait nos vies. Et je dis pas qu'il faut rien faire avant de se marier, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'était juste pour rebondir au fait qu'aujourd'hui, on se marie de moins en moins. Je pense qu'on se marie de moins en moins parce qu'en fait, y a des choses qui étaient agréables à faire dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, on les a sortis de leur boîte en se disant « Oui, mais il faut bien que les célibataires y vivent aussi. » Et en fait, je pense que ça a été une mauvaise manière de prendre le problème. Mais ça, voilà, ça ne changera rien à la situation qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, ce que je retiens de ta réponse, c'est que ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de poser son enfant en disant « Mon enfant, je vais te parler du mariage. » Parfois, il y a... l'exemplarité, c'est l'exemple que je donne avec ma maman, et puis c'est effectivement ce que tu disais toi, c'est que la manière dont on vit notre couple a un impact dans la manière dont nos enfants va percevoir le couple et le mariage. Et quelque part, quand on a préparé cette conversation, toi et moi, Mariama, je me souviens qu'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est de voir à quel point éduquer un enfant, c'est réparer l'enfant qu'on a été soi-même, en fait. Et quelque part, cette réponse, c'est un peu ça. C'est de se dire, mais en fait, faut toujours te checker toi, faut toujours essayer de faire en sorte que toi, là-dessus, tu puisses avoir fait au mieux, parce que ça, déjà, ce sera la première étape d'apprentissage de ton enfant. C'est un peu ça ?
Tu sais, j'étais en train de réfléchir à quelque chose pendant que tu me posais ta question. Et je voulais juste revenir sur un truc, après tu me reposes ta question, d'accord ? Pour la notion de mariage, une des choses que vous pouvez faire, et ça m'est revenu en fait, parce que ça m'a fait rire, c'est de parler de votre propre mariage et de sortir l'album photo de mariage et de montrer ça à vos enfants. Comment ça s'est passé, qui était à votre mariage, etc. Et en fait, tu vois, mon mari, il est turc et moi, je suis comorienne. Et nos filles, on leur a présenté les différentes cultures. Et ce week-end, on avait acheté une robe pour un événement que ma fille va fêter. Et elle était toute belle. On a commencé à pleurer. On s'est dit, oh, c'est comme une mariée, tu vois, et tout. Et elle nous fait la blague. Ah, mais le café n'est pas prêt. Parce qu'en fait, les Turcs, quand le célibataire, le fiancé vient, on doit préparer un café, etc. Et ça m'a fait rire. Et elle a que 11 ans, tu vois. Et ça m'a fait rire parce que on a rigolé dessus et on a commencé à rigoler. Ça veut dire que Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment déculpabiliser les choses et ramener de la joie dans nos foyers. Et ramener, en fait, que ces choses-là, c'est, le mariage, c'est quelque chose de joyeux. Et vraiment reprendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, suivez-moi, en fait. Je me suis mariée, mariez-vous, en fait. Et après, c'est pas tout le monde qui va se marier. Et on ne va pas faire de complexe par rapport à tout ça et tout, mais... Par rapport au mariage, franchement, moi je trouve que en ayant accompagné les adolescentes, elles m'ont vraiment appris sur le fait de garder la joie. Mmh. Tu vois, la joie dans notre foyer, l'importance de... J'avais ramené une jeune fille à une conférence, elle m'a dit je ne savais pas que les imams, ils rigolaient. Parce que l'imam, il faisait beaucoup de blagues pendant la conférence, etc. Du coup, en fait, je pense qu'il faut redonner... parce que tu vois, dans les séries, on nous montre que l'Amérique, c'est les meilleurs, les Occidentaux, c'est les meilleurs... Mmh. Mais on ne nous représente jamais. Et même quand on nous représente, c'est toujours dans la négativité. Mmh. Même dans les médias, on va parler de nous de façon négative. Et tu sais, moi, je détestais, par exemple, les femmes voilées, tu vois, parce qu'on avait, dans BFM, dans tous les médias, on en donnait une image, mais tellement noire.
On peut en parler
que
de
pour
ça.
Moi, c'était... Ouais, voilà. C'est que vrai, c'est ah non, je n'aime pas du tout les femmes voilées.
Moi,
quoi.
Tu sais, j'en étais au point où, quand on disait, ah oui, telle personne s'est voilée, j'étais en mode, oh non. Tu sais, vraiment, genre, oh, un soldat tout beau.
Voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Et du coup, en fait, il faut changer nos perceptions.
Absolument.
Et je pense que les filles, en me poussant, tu vois, comme tu dis, j'étais dans les finances et j'ai dû me reformer, j'ai dû faire pas mal de formations pour comprendre. Mmh. En faisant ces formations, je te jure que c'est ça qui m'a donné le courage, en fait.
Wow.
Et je pense que c'est la connaissance. C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Ikra.
Oui.
La connaissance, ça aide énormément. Et Omar Ibn Khattab disait que se poser les bonnes questions, c'est la moitié de la science. Du coup, il faut qu'on se pose les bonnes questions sur aujourd'hui, comment j'éduque mon enfant, qu'est-ce que je lui transmets comme valeur, etc. Mmh. Et est-ce que ça va dans le chemin que j'ai envie de les emmener et tout. Et déculpabiliser et revenir à soi, qui je suis en tant que parent, quelle croyante je suis, quelle femme je suis, quelle épouse je suis, quelle fille je suis, pour justement mettre des mots dessus pour qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Qu'est-ce que je n'ai pas du tout apprécié, que je n'ai pas du tout envie de transmettre à mes enfants.
Ah oui, c'est hyper beau.
Voilà, c'est ce qui m'était revenu avant que tu me poses
la
question.
Non, mais de toute façon, honnêtement, on va avancer parce que je trouve que ce que tu as dit là, c'est vraiment magnifique et on peut s'arrêter là. Je note juste que effectivement, quand tu disais, on peut avoir tendance à penser que les Américains, c'est un peu les meilleurs. En plus, enfin, moi aussi, je suis vraiment le cliché de l'enfant des années 80 qui a été biberonné à la télé, qui rêvait de l'American Dream. Je suis partie aux États-Unis. Enfin, vraiment. Parce que pour moi, au-delà de c'est les meilleurs, surtout en termes d'épanouissement familial, nous, ils nous montraient des familles qui avaient l'air tout le temps heureuses, quoi. C'était vraiment la famille rigorée, quoi. C'était vraiment... on rêvait de ça parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'amour dans tout ça. Et tu l'as très bien dit, quand on est adolescent, je trouve encore peut-être plus quand on est une femme, mais il faut voir, parce que c'est un public que je ne connais pas bien et je ne voudrais pas faire de généralités... qui sont trop courtes. Enfin, je voudrais pas faire des raccourcis. Je trouve qu'on manque beaucoup d'amour et on donne beaucoup de choses pour être aimé. Alors que parfois, nos parents ont vraiment donné leur maximum pour remplir ce réservoir. Mais c'est comme si on arrivait avec un petit déficit en nous. On a toujours besoin d'être aimé. Et si on n'a pas en tête qu'il y a que Allah qui peut nous nourrir et nous combler de cet amour, on peut vraiment faire des choix profondément... Pas forcément douteux, mais tristes, en fait. En tout cas, qui seront pas à notre avantage et qui vont pas nous emmener vers des voies qui sont saines. Et ça me fait une transition pour la dernière partie, quelque part, de notre conversation. C'est sur l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation sexuelle parce que c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par l'éducation nationale, il faut le dire. Mais force est de constater que c'est un terme qui continue d'intriguer, voire qui fait peur à certains parents, notamment des parents musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Mariama, tu peux nous dire clairement ce que c'est que l'éducation sexuelle ?
Bah, l'éducation sexuelle au niveau de l'école, c'est d'enseigner à nos enfants qu'est-ce que le plaisir, qu'est-ce que le consentement, comment se protéger dans des rapports sexuels, etc. et tout. Alors qu'avant, c'était plutôt utilisé dans le terme de, on nous expliquait l'anatomie, le corps, tu vois, etc. Mais ça a pris une tournure aussi différente. Pourquoi ? Parce que depuis 2013, on propose ces cours de l'éducation à la sexualité dès la maternelle, mais de façon subtile à travers des livres où la jeune fille peut, dans des livres, on lui propose des livres où elle peut se masturber, où justement elle peut se mettre toute nue devant tout le monde, devant des figures d'autorité, etc. Et
ça, c'est depuis 2013, tu dis ?
Bah, tu sais, quand j'ai commencé à aller voir les auteurs de livres comme Tous à poil, c'était un livre qui était proposé. Et en fait, là, c'était les enseignants qui devaient choisir s'ils voulaient l'enseigner à l'école ou pas, tu vois. Il y avait quand même ce choix. Mais quand j'ai vu ce type de livre qui était proposé à certains élèves, que ce soit en maternelle ou en primaire, bah, personnellement, quand je suis partie les voir, j'ai dit, mais je suis choquée, en fait, parce que l'enfant, c'est, je me mets tout nu devant la grand-mère, devant la police, devant vraiment des figures d'autorité dans lesquelles où l'enfant, il a confiance. Et je disais, mais c'est pas l'amener à perdre sa pudeur et à amener à des dérives sexuelles. Elle disait, mais non, on fait ce qu'on veut. Voilà, il y avait même une femme qui s'est levée, elle dit, moi, je me mets tout nu devant mes enfants, je fais ce que je veux. Je dis, d'accord, on fait ce que vous voulez, mais avec nos enfants, non. C'est-à-dire que dans votre foyer, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas que ça soit enseigné à nos enfants, etc. Du coup, ça fait un bon moment, même les années 2000, nous, quand on était au collège, en quatrième, on avait des cours de l'éducation à la sexualité où on nous parlait de préservatifs, etc.
Ah oui,
etc.
C'est vrai,
du coup,
oublié.
En fait, il ne faut pas...
Attention,
il faut
nous, pas... on était plus au lycée, tu vois, pas...
Au collège, au collège.
Ok, je me souviens.
C'était au collège, c'était en quatrième.
Ok, d'accord.
C'était en quatrième quand on faisait ce cours. Et là, aujourd'hui, j'ai des mamans qui me disent, bah, ma fille de CM1 a un cours sur l'éducation à la sexualité. Ma fille de... En fait, tu vois, moi, j'agis qu'en fonction de ce que j'ai comme retour, en fait, tu vois. Je mets en place des solutions en fonction des problèmes que les parents rencontrent sur le terrain. Moi, quand j'ai une maman qui me dit, bah, Marama, ma fille à l'école en CE2, sa camarade de classe lui a dit, est-ce que tu as déjà regardé un film X? Et qu'en fait, sa fille, en rentrant à la maison, prend le téléphone de sa mère et regarde un film X. Et qu'après, sa mère, elle se retrouve dénue, elle se comprend pas. Bah en fait, bah quelle solution je peux apporter à ça, tu vois? Et en fait, je pense que beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement sur le terrain. Soit on fait semblant, soit on ferme les yeux, soit on n'entend pas ce que, comme tu as dit, le ministre de l'Éducation dit, en fait. Il a dit, on va apprendre ça à vos enfants. Mais ils sont malins, ils utilisent des termes affectifs, relationnels, sexuels.
Ça allait être ma prochaine question. Ça allait être ma prochaine question, mais avant d'aller sur cette question, j'en ai une autre parce que tu as très bien défini ce qu'était l'éducation sexuelle telle que définie par le gouvernement. C'est quoi une éducation sexuelle selon l'éthique musulmane? Parce qu'en fait, tu en as un petit peu parlé et c'était un peu presque être Sam le pompier, à savoir que toi, tu interviens selon les demandes des parents. Mais en fait, ce serait quoi une éducation sexuelle musulmane qui n'est pas en train d'intervenir pour soigner ou pour réparer une mauvaise éducation sexuelle? Est-ce que c'est possible? Et c'est quoi concrètement? Ça passe par quoi?
Bah, l'éducation sexuelle, c'est un rapport entre une femme et un homme. C'est-à-dire que j'en parle quand mon enfant est prêt à se marier et prêt à avoir une relation avec son futur époux.
On n'en parle pas plus.
On parle à ce moment-là.
Tu fais pas d'éducation sexuelle à un enfant de 8 ans ou 10 ans. Je pose les questions comme ça. Hein. Je dis pas qu'il faut faire ça. Hein.
Tu vois, moi, j'ai ma fille, elle a 13 ans. J'ai jamais parlé de sexualité à ma fille. Je lui parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de la pudeur, du fait de baisser le regard, du fait qu'on n'a pas le droit de regarder une personne nue parce que, voilà, elle ne respecte pas la aura. Voilà, je lui parle de ses menstrues, des changements de son corps, que, voilà, son corps va se transformer parce qu'il va se transformer en femme et que Allah la prépare à devenir une femme qui va enfanter quand elle sera mariée, etc., etc. Voilà de quoi on doit parler avec nos enfants, de la puberté, de cette transformation du corps. Et après, aujourd'hui, on veut qu'on parle que de sexualité, mais je sais pas, la vie est pleine de choses. Nos enfants, on peut leur parler de science, on peut leur parler de l'importance de bien connaître son corps, on peut leur parler des mathématiques. Voilà. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, on vient amener absolument, il faut parler de sexualité à nos enfants, en fait. Alors que nos enfants, comme on a dit tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de ça, ils veulent juste de l'amour, de l'affection.
Oui. Et de toute façon, tu l'as dit précédemment, tu as dit, moi, je ne parle pas d'éducation sexuelle, je parle d'amour. Tu as commencé en disant ça, la première fois qu'on a abordé ce terme-là dans notre conversation. Donc, quelque part, tu reboucles un peu ce par quoi t'avais commencé. Et j'ai une dernière question là-dessus. Je pense qu'on a la réponse, mais quand même on te la pose. Est-ce que les parents musulmans prennent un risque en n'abordant pas la question de l'éducation sexuelle auprès de leurs enfants?
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi l'éducation à la sexualité? Moi, en tant que parent et en tant qu'accompagnatrice des mamans, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un travail sur... comment on peut préserver l'iman de nos enfants, tu vois, la foi de nos enfants à travers cette santé mentale, en les éloignant en fait de la pornographie, des perversités ou des agressions sexuelles, etc. Du coup, en tant que parent musulman, je pense qu'il faut revenir tout simplement à nos préceptes. On se dit musulman. Et quand on se dit musulman, bah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des règles, en fait. On a des règles qui sont régies par la jurisprudence, par la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et revenir à ça, ça va nous permettre, en fait, d'éduquer des enfants sains et des adultes sains. Et la question, c'est est-ce que je suis en train d'éduquer un adulte sain ou pas, en fait.
Merci beaucoup, Mariama. C'était extrêmement clair. Est-ce que tu souhaiterais nous partager un dernier conseil? Est-ce que tu aurais une dernière recommandation pour les parents qui nous écoutent, mais pas que les parents, comme on a dit. On le dit de plus en plus, il faut tout un village pour élever un enfant. Ça, on le savait depuis longtemps, du fait de nos origines et du fait de notre religion, on le sait. Et éduquer, ça ne passe pas que par les parents. Il y a une armada d'adultes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition autour de nos enfants pour aider à éduquer, dès lors où les parents veulent aussi, ou sont disposés à laisser la place. Donc est-ce que tu aurais un dernier conseil à prodiguer à toute cette armada-là, Inch'Allah ?
Ne restez pas seul. Ne restez pas seul parce que une brebis seule se fait attaquer facilement par les moutons. Du coup, en tant que parent, aujourd'hui, on ressent beaucoup de frustration, de culpabilité. On se dit on a mal éduqué nos enfants, etc. Il faut vraiment sortir de ces émotions désagréables et s'entourer des personnes qui vont nous donner la force et le courage de continuer à oser, parce que c'est vraiment pas facile aujourd'hui l'éducation. Mais alhamdoulilah, le fait qu'on soit croyant nous donne cette force de persévérer, d'être dans l'endurance et de continuer à être dans l'espoir. Parce que tant qu'on a la vie, on est toujours dans l'espoir. Et il ne faut jamais désespérer en disant « mon enfant, il a fait ça, c'est fini ». Non, non, non. Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala à 20 ans, à 19 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans. Du coup, il ne faut jamais, jamais perdre espoir. Et le conseil que je donnerais, c'est ne vous comparez jamais aux autres parents. Si vous vous comparez, ce sera plutôt dans la positivité, dans le sens que je vais essayer de prendre quelque chose de positif qu'a fait ce parent et je vais essayer de l'incorporer au sein de mon foyer. Mais jamais de vous comparer à vous rabaisser. Ah, elle fait mieux que moi, ah, elle sait mieux que moi, ses enfants ils sont plus polis, ses enfants sont plus intelligents. Ça a fait que détruire notre confiance en nous, notre confiance en nos capacités. Et il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on connaisse bien notre ennemi parce qu'il a mis en place des stratégies bien efficaces pour faire dévier et faire grandir la perversité autour de nous. Parce qu'avant, nos parents, ils avaient peur quand on était à l'extérieur. Aujourd'hui, on a peur quand nos enfants sont à l'intérieur parce qu'avec les écrans et tout ça, ils peuvent accéder, ne serait-ce que dans leur chambre, au danger.
Ouais, bien sûr.
Du coup, il faut qu'on soit prévoyant et qu'on soit fort. Physiquement, intellectuellement, spirituellement, et s'accrocher au câble le plus fort, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a Allah dans notre vie, tout est possible.
Subhanallah. Ben, alhamdoulilah, on va s'arrêter là. Je pense que tout a été dit et c'est une magnifique conclusion, parce que c'est une conclusion qui termine avec notre Seigneur, celui qui peut tout. Donc on ne peut pas mieux terminer que ça. Je remercie vraiment beaucoup Mariama. Une dernière chose, où est-ce que les personnes peuvent communiquer avec toi s'ils souhaitent te contacter?
Il peut me retrouver sur Instagram, Mariama Osturk, avec le tiré du 8. Sinon, j'ai un podcast dans lequel je réponds aux questions sexuelles de leurs enfants. Sur le podcast, vous le retrouverez sur YouTube, Mariama Osturk, et sur Spotify. Spotify, c'est Mariama Osturk, Oser Éduquer. Et bien sûr, pour celles qui veulent aller plus loin, qui ne veulent pas que du contenu gratuit, il y a le contenu payant dans lequel il y a le programme d'accompagnement où justement, là, on a créé un village avec des mamans extraordinaires qui ne cessent de s'encourager et se soutenir dans l'éducation de leurs enfants et vraiment de sortir de la solitude. Parce que des fois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui arrivent ça comme problème. Mais cependant, là, quand on se retrouve dans ce village qu'on a créé, qui est via le net aussi, parce que vu que je suis expatriée en Turquie, bah, c'est via le net que je continue, via en ligne que je continue mon travail terrain. Du coup, on a créé un groupe Telegram dans lequel les mamans de la formation se retrouvent et peuvent immédiatement avoir accès à moi et à mon équipe, dont il y a une coach parentale qui prend le temps de répondre à leurs questions concernant la communication, etc.
Inch'Allah. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Barakallahu fik, tashakkur edelem, c'est bien comme ça qu'on dit.
Evet.
Merci beaucoup Mariama, prends bien soin de toi et puis à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute de votre soutien au quotidien. Hala Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcasts. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5€ par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. Et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi. Et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Charles. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.
If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid, good trips only.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities from TV studios to radio suites and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.